Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors on va accueillir tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Aude Semeria, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute et vice-président de l'Association française de psychothérapie existentielle. Alors vous êtes également l'auteur, et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, du livre Les quatre peurs qui nous empêchent de vivre, qui est paru chez Albin Michel. Alors on va rassurer la plupart de nos auditeurs tout de suite, hein, tout le monde a peur. Et c'est normal, c'est vrai que quand on écoute les infos en ce moment, on a tous peur hein, d'une chose ou d'une autre. C'est normal d'avoir peur même quand on n'est plus un petit enfant, quand
on est
un adulte.
Normal. Ouais. C'est normal, la peur ça a une fonction qui est même génétiquement programmée, qui est de nous faire échapper au danger, de repérer le danger, on traverse la rue, on regarde, etc. Le problème c'est les peurs irrationnelles, hein. C'est de ça que parle ce livre, les peurs irrationnelles, un peu obsédantes et qui perturbent notre vie.
Oui, parce que j'ai 34 ans, si j'ai peur des crocodiles c'est plutôt normal, mais si en revanche j'ai 34 ans...
Vous avez peur des crocodiles,
Jimmy, oh. C'est plutôt normal, c'est mécanisme de survie, mais si j'ai peur du noir par contre, là en revanche ça pose plus de problèmes.
Là c'est embêtant. Alors il y a la peur qui est normale, et il y a les phobies qui sont donc obsédantes, qui perturbent le fonctionnement professionnel, familial, sentimental, et puis il y a ces petites peurs qui passent un peu inaperçues, la peur du noir effectivement.
Mais Jimmy, il a mis une veilleuse, hein, ça va beaucoup mieux depuis.
Alors ça c'est un très bon exemple, parce qu'il y a énormément de gens qui ont peur de dormir dans le noir.
Ouais.
Des gens qui ont peur de dormir tout seul. Alors, ça passe inaperçu parce qu'on s'adapte et tout, mais ça témoigne quand même de la persistance d'une immaturité en soi, et qui elle-même se paye assez cher dans sa vie, parce qu'on ne maîtrise pas vraiment sa vie.
Alors, dans votre livre, vous avez identifié quatre peurs fondamentales, je dirais. Quelles sont-elles précisément? D'abord, on va les citer, ensuite on va rentrer dans le détail.
Alors, la peur de grandir. Alors, c'est une hypothèse, hein, de mon livre, c'est-à-dire que j'ai essayé de répartir ces peurs en quatre catégories.
Ouais.
Voilà. La première, c'est la peur de grandir, c'est-à-dire de s'autonomiser par rapport à ses parents, donc à sa famille d'origine. La deuxième, c'est la peur de s'affirmer, c'est-à-dire de se définir déjà, de se mettre dans une case. On dit souvent, il ne faut pas se mettre dans une case, il faut rester flou. Donc, quel est mon rôle, quelle est ma place dans cette société? La troisième, c'est la peur d'agir, donc qu'on retrouve dans la procrastination, la rumination, on tourne en rond, on n'agit pas, on finit pas les choses. Et la dernière, c'est la peur de se séparer, c'est-à-dire la peur de faire confiance au lien. Est-ce qu'on va m'abandonner? Est-ce que... Voilà.
Je trouve qu'elles sont bien choisies, ces catégories.
Mais on va commencer par la première des peurs, la peur de grandir. Mais en quoi c'est effrayant de devenir un adulte? Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais pressé de grandir.
Je voulais être grande absolument... aussi. Une fois que j'ai grandi, depuis toujours.
Mais, oui. Mais une fois qu'on grandit, on se dit que c'était mieux quand on était enfant.
C'est pas exactement comme on l'imaginait, parce qu'on l'imagine un peu sur le modèle de l'enfant, sur les schémas de l'enfant. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on veut. L'enfant, il est sans limite en réalité. Donc il peut s'imaginer, ma fille qui a 8 ans par exemple, s'imagine être vétérinaire, acrobate et...
Tout ça en même temps. Bien sûr, donc, ça paraît
c'est
chouette
génial,
comme ça.
Si mais... on pouvait. Ouais. Sauf que devenir adulte, c'est se heurter à des limites, c'est accepter des limites qui sont absentes du monde de l'enfance, sauf quand elles sont imposées par les autres. Mais quand on devient adulte, il faut se les imposer à soi-même. Et le problème, c'est que dès qu'on prend conscience des limites, on prend aussi conscience des limites existentielles. Et il y en a quatre. C'est ce qui définit la psychothérapie existentielle, c'est-à-dire qu'il y a la mort qui est une limite dans le temps qu'on a à vivre. La deuxième, c'est la solitude, le fait qu'on est seul dans sa tête. On arrive seul au monde et on part seul. Personne ne peut être moi à ma place. La troisième, c'est le sens. Quel est le sens de ma vie? Là, il faut que je décide. Vous voyez que toutes ces choses-là, on n'a pas à les penser quand on est enfant. Et la quatrième, c'est le fait de faire des choix, la responsabilité. Je suis libre d'agir comme je veux, je dois faire des choix, et ces choix m'engagent. À partir du moment où on accepte ça, vers la fin de l'adolescence, alors on voit bien qu'il y a une espèce d'autoroute devant nous, et qu'au
qu'on
bout,
sera
il y a
pas véto et acrobate en même temps.
Et qu'on ne peut pas tout faire, et qu'on doit faire des choix, ouais. Etc.
Alors dans votre livre, vous évoquez ce rapport entre nos peurs et notre enfance d'ailleurs. Vous dites que même les problèmes de sommeil, les insomniaques qui se lèvent par exemple 2-3 fois la nuit, ces problèmes en fait c'est tout simplement qu'on ne sait pas faire ses nuits comme quand on était un enfant.
Exactement, on dit toujours nos enfants ne font pas encore leur nuit et tout. Mais les insomniaques c'est pareil, ils ont beau avoir 30, 40, 50 ans, ils ne font pas leur nuit. En fait, ils sont encore dans cette... peur de s'arrêter, parce que aller se coucher, c'est ça, c'est perdre conscience quand même. C'est être dans le noir, être seul aussi, parce que même si on dort à côté de quelqu'un, il y a une coupure qui se fait. Ouais. Donc vous voyez qu'on est confronté à ces peurs existentielles. Et s'arrêter, c'est pas facile. Donc on a des tas de combines, je vais m'endormir sur le canapé un peu malgré moi, je prends des somnifères.
Je mets la télé pour avoir un fond bruyant.
Je mets la télé, ouais. Moi je vois beaucoup de gens en séance qui dorment avec des écouteurs. Ouais. Avec une émission de radio toute la nuit dans la tête.
Si c'est Europe 1, ça va, c'est pas trop grave.
Et voilà, c'est ça. Et encore, sans parler des doudous,
des doudous adultes, ah oui.
Bien sûr, il y a énormément d'adultes qui dorment avec des peluches, avec des chiens.
Oui, je dors avec mes chaussettes, mais ça, c'est encore une autre problème.
Alors ça, c'est pas un doudou, là.
C'est un problème dont on parlera.
C'est juste des chaussettes.
Alors, la peur de grandir, c'est aussi la peur d'assumer son corps d'adulte, d'avoir des hanches, des poils, de prendre du volume. Et c'est ce qui pourrait expliquer, en tout cas, nous aider à mieux comprendre l'apparition de certains troubles comme la boulimie ou l'anorexie, notamment chez les enfants.
Oui, alors, il faut pas réduire. Hein. Je veux pas réduire l'étiologie de ces troubles. Mais c'est vrai que la boulimie, ça, le fait de manger trop, même sans parler de boulimie, on peut parler d'hyperphagie. Le fait de manger trop, ça peut viser une autre croissance que celle du corps en hauteur, disons, en développement, les hanches, les poils, etc. C'est parce qu'on voit bien que manger sans limite, c'est encore une manière de rester finalement dans son immaturité. L'anorexie, c'est pareil, c'est un refus d'un corps qui est toujours trop grand, toujours trop gros, et comme si, quelque part, on n'acceptait pas ce développement-là qui menait au statut d'adulte.
Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres causes, mais en tout cas, ça peut être sous-jacent, cette peur fondamentale. Alors, parmi les peurs qui sont d'ailleurs d'actualité, il y a l'hypocondrie, mais sans forcément aller jusque-là, le simple fait d'avoir peur des maladies, du virus. Enfin, depuis un an, on vit avec ça, justement. Enfin, c'est normal, là, qu'on ait une espèce d'hystérie, d'hypocondrie collective aussi.
L'hystérie collective.
Je parle d'hystérie, j'exagère un peu, mais on est tous un peu anxieux quand même.
C'est un peu normal d'avoir peur, là, en ce moment, des virus, puisqu'il y en a. Donc, vous voyez que c'est rationnel. Par contre, l'hypocondrie, c'est pas rationnel.
Ça apparaît souvent à la fin de l'adolescence, vous dites pourquoi ?
Je l'ai vécu moi-même, d'ailleurs je le dis dans mon livre. Tout à coup, à 17 ans, 17-18 ans, vous vous rendez compte que vous devenez responsable de vous-même. Vous savez, pour comprendre ça, il faut parler des enfants malades, des petits-enfants malades qui sont à l'hôpital. On dit souvent qu'ils sont très courageux. Ah, ils supportent... Alors oui, ils sont courageux parce qu'ils supportent des piqûres, des traitements, mais ils n'ont pas du tout conscience de la mort. La mort, ça ne les concerne pas, ça concerne leurs parents. C'est eux les responsables pour... Et donc, à la fin de l'adolescence, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes responsable de votre santé.
Et la solution, finalement, pour ne pas avoir peur de grandir, c'est de trahir tout simplement ses parents. Et vous dites que la famille, d'ailleurs, c'est une monarchie et qu'il faut faire une révolution. Alors que mes enfants ne fassent pas la révolution tout de suite.
Vous adorez, là, je crois.
Oui, on attend un peu avant la révolution.
Oui, alors, vous dites tout simplement, c'est pas si simple, trahir ses parents. Ça peut choquer, il faut mettre des gros guillemets. Alors, je parle de monarchie parce que quand on est un petit enfant, on doit une loyauté à ses parents. Et c'est une loyauté absolue. C'est pour ça que je devrais d'ailleurs parler de monarchie absolue. C'est-à-dire que les parents ont tous les...
Et donc trahir ses parents, on peut le faire à l'âge adulte, quoi, c'est ça que vous voulez dire. Mais c'est arriver à se séparer, couper le cordon un peu en quelque sorte, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais déjà grandir, ça les trahit, parce que les enfants, les parents veulent des petits bébés, des enfants. Mais dès que ça grandit, ils ont des désirs, ils ont des volontés, ils ne veulent pas faire exactement comme nous on veut, etc. Donc trahir ses parents, au fond, c'est... s'affranchir de leurs injonctions.
Très bien. Séméria, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer à vous décrypter ces peurs qui peuvent tous nous habiter à un moment ou un autre, ou même s'installer en nous de façon presque chronique et donc nous empêcher de vivre pleinement. On va vous détailler juste après la deuxième peur fondamentale, la peur de s'affirmer. Comment la dépasser ? On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous de Séméria. Vous êtes psychologue clinicien. Vous êtes également l'auteur du livre Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre, qui est paru chez Albin Michel. Alors on dirait que j'ai peur, moi aussi j'ai un petit chat dans la gorge simplement. Alors on continue cette émission à identifier donc nos peurs et on va aborder à présent la peur de s'affirmer. Là, de quoi s'agit-il concrètement ?
La peur de s'affirmer, c'est la peur d'occuper une case, un rôle, une place dans la société, dans la famille, dans le travail. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, on le voit en ce moment, il faut être plutôt fluide, plutôt, comment on dit, binaire, non-binaire, sur la question des genres. Oui. Il ne faut pas...
Se mettre dans une case.
Mais je crois que c'est une erreur. Il faut se mettre dans une case, ne serait-ce que pour se donner la possibilité d'en changer, si on veut. Vous voyez, mais il faut pouvoir se définir. Et la peur de s'affirmer, c'est cette peur de vraiment se délimiter. Encore, c'est encore une fois une question de limite, c'est-à-dire de déclarer qui on est. Et plutôt que de rester finalement dans cette position de l'enfant qui est floue. L'enfant est indéterminé.
Et pour vous, les cas, c'est bien, mais on peut en sauter.
Cette peur de s'affirmer, elle remonte aussi bien souvent à l'enfance. C'est une des causes.
Oui, bien sûr, puisque l'indétermination, finalement, c'est c'est dans l'indétermination que les enfants vivent. On se définit pas spécialement.
Après, votre fille, elle veut être acrobate vétérinaire
c'est
et
ça,
machin.
Par exemple,
elle a pas de case.
Elle veut être
plusieurs cases déjà.
Temps.
Ouais.
Et donc, c'est la volonté de rester finalement dans cette indétermination. C'est ça qui se raccroche à l'enfance.
Alors, ce qui peut illustrer cette peur de s'affirmer, c'est l'autodévalorisation. Vous dites le syndrome de l'imposteur, un syndrome plus fréquent qu'on ne le pense d'ailleurs. À quel point c'est fréquent ? C'est qui ces personnes ?
J'ai pas de chiffres, mais il faut préciser quand même que ça ne concerne... Alors ça peut rassurer les gens qui écoutent. Ça ne concerne que les gens qui réussissent, que les gens compétents. Le syndrome de... D'ailleurs, on l'appelle plus syndrome, on dit sentiment d'imposteur.
C'est un truc plus de femmes, moi, j'ai l'impression, que d'hommes.
Pas du tout.
Non ? J'ai tort ? Ah bon, d'accord.
Tout.
Bon, ça va.
Non, il y a énormément d'hommes qui... Voilà. Alors là, ça s'explique par le fait que c'est encore une fois s'avancer dans la vie, dans l'existence. Si j'accepte mes réussites, alors ça me pousse en avant et ça me fait sentir que j'existe. Et ça m'engage. Et je veux pas... Quand on n'a pas quitté l'enfance, on ne veut pas s'engager.
Mais du coup, ce syndrome de l'imposteur, il se traduit par quoi ? Des personnes qui ont l'impression de ne pas mériter leur succès, en fait, qui réussissent, mais qui se disent, bah, en fait, j'aurais dû échouer. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours ?
Ça se traduit par le fait que ces gens se disent, les autres me disent que j'ai réussi, que je réussis. D'ailleurs, c'est des gens qui souvent ont des postes intéressants, mais ils sont persuadés que les autres se trompent. Ils ne voient pas ce que moi, je vois de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils voient de l'intérieur ? Ils voient qu'il y a un petit enfant dans un costume d'adulte.
Vous avez beaucoup des patients, vous, qui comme ça, donc jouent un rôle, entre guillemets, toute la journée, ont le sentiment de faire semblant d'être des adultes. Ça ressemble à quoi, leur journée au travail, du coup, s'ils ont l'impression d'être des enfants ?
Vous savez, c'est presque tout le monde. Il y a un moment où on quitte sa maison. Là, on prend un ton pour parler qui est particulier.
On joue au grand, quand même. Là,
on joue au grand. Hein, oui, voilà. On n'est pas comme si on était entre amis en train de boire une bière. Donc, on sait qu'il faut jouer un rôle. Mais il y a des gens qui doivent carrément jouer le rôle de l'adulte. Ils disent, ils prennent leur costume d'adulte en partant. Et au travail, ils font semblant toute la journée. Et ils sont rongés par cette position où tout le monde paraît plus grand, plus adulte, plus intelligent.
Mais du coup, c'est une forme d'immaturité. C'est des gens qui refusent de grandir, là encore, en fait.
Absolument. C'est encore ça. C'est vraiment ce refus d'entrer dans sa vie pleinement. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à dire. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de dire « je suis un homme » ou « je suis une femme ». À poser la question autour de vous.
Ils disent quoi ?
Il y a des tas de gens... Ils disent « je suis une fille, je suis un gars, je suis... Je suis un mec, mais moi j'ai énormément de patientes et de patients et je leur pose toujours la question. Je leur dis, est-ce que vous êtes une femme ? Et après, ça fait l'objet de plusieurs séances.
Je suis une demoiselle.
Je suis une demoiselle. Je suis une fille, mais la personne peut avoir 50 ans. Hein.
Ouais.
Vous voyez ?
C'est étonnant.
Dire je suis une femme, là, ça vous met face à...
Bon, et là encore, une des clés, selon vous, pour sortir de cette peur de s'affirmer, c'est de changer sa relation avec ses parents. On y revient souvent aux parents, je trouve, non plus d'enfant à adulte, mais il faut vraiment arriver à être avec ses parents, d'adulte à adulte, c'est ça ?
C'est ça.
Comment on procède exactement ? Vous avez un exemple, je crois, l'histoire de Florian.
Florian. Alors, en fait, l'histoire, c'est que ce sont vos parents qui vous ont déterminé comme enfant dès la naissance et vous avez passé une vingtaine d'années à vivre avec ce statut d'enfant. Donc, si vous voulez entrer dans l'âge adulte, vous êtes obligé de sortir de ce statut et donc de trahir, finalement, cette loyauté absolue que vous devez à vos parents, qui va devenir une loyauté relative. Évidemment, il ne s'agit pas de trahir ses parents, de les renier, bien entendu. Mais quand vous allez faire votre vie sentimentale, par exemple, vous allez investir affectivement des personnes étrangères à la famille.
Oui.
Et c'est une trahison. Là, à ce moment-là, vous dites, ma loyauté n'est plus absolue.
Mais c'est une trahison saine et nécessaire.
C'est une trahison nécessaire, bien entendu.
Mmh. Et l'histoire de Florian, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Florian ?
Alors, Florian, c'est un jeune homme, mais comme il y en a tant, qui a 33 ans, qui a son appartement, qui a un petit métier, qui va voir ses parents de temps en temps. Et qui, le problème, c'est que c'est comme s'il n'avait pas quitté ses parents. Il retourne les voir le week-end, il passe le week-end. Alors je lui demande, qu'est-ce que vous faites ? Il me dit, je mets les pieds sous la table, je fais la sieste, je joue avec le chien et je parle de la météo avec mes parents.
Bon, ça a l'air super.
Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait semblant qu'il est encore une sorte d'ado. D'ailleurs, sa chambre est une chambre musée, il y a encore ses cours de terminale, etc. Vous voyez ? Donc...
Ça, c'est un exemple typique de cette peur de s'affirmer, de ce désir profond de rester lié à ses parents.
Pourquoi ? On ne parle pas simplement des petites peurs qui peuvent comme ça nous gêner dans la vie. On parle vraiment de se réaliser, de réaliser sa vie. Et de fait, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il foire toutes ses histoires sentimentales. Et il ne peut pas réussir quoi que ce soit tant qu'il n'aura pas décidé de quitter réellement ses parents, d'être invité chez ses parents et pas... de jouer le rôle de l'enfant qu'il a été.
Alors vous dites une chose assez rigolote, c'est qu'il est possible d'identifier les personnes qui ont peur de s'affirmer simplement en les regardant marcher dans la rue. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre ?
Ah oui, alors j'en parlais encore ce matin, c'est amusant. Vous savez, il y a des gens qui, en marchant dans la rue, ont l'impression de tout le temps se pousser pour laisser passer les autres.
C'est vrai,
bien,
ça.
C'est incroyable, ça.
Ça m'énerve tellement. Moi, je reste en place. J'attends que la personne se pousse. Ça m'agace trop. Oui. Ou celui qui va ouvrir le métro ou pas. Vous voyez, ça aussi, c'est un test en ce moment.
C'est ça. Et, ouais. et il faut se rendre compte qu'en face, ce n'est pas des gens méchants qui arrivent. Ce n'est pas des sans-gêne. C'est qu'il y a une espèce de wifi mental dans la rue. À 20 mètres déjà, vous savez, sans même y penser consciemment, que l'autre va se pousser. Parce que vous produisez de la signification tout le temps.
Moi, je ne veux pas être celui qui se pousse. Voilà. Ma
mais alors, si vous ne voulez plus être celui qui se pousse, qui est la marque?
Ah, mais
celui
je ne me pousse pas, hein, je vous assure. Ça reste à place.
Celui qui se pousse, c'est la marque de l'enfant. L'enfant se pousse, laisse passer, se met sur le strapontin, etc.
Donc, tous ceux qui se poussent sont encore des enfants et il y a une petite peur de s'affirmer.
Bah, il y a cette peur de s'affirmer. Donc,
vous allez créer des embouteillages, hein, dans les rues, là, je crois.
Mais non, mais attendez.
Et Mélanie, des coups d'épaule à Europe 1, je vous dis, elle laisse personne passer.
Non, il faut partager, le faire un petit mouvement de part et d'autre, et c'est ça. Mais il y a des gens qui sont déjà prêts à se pousser et à slalomer entre les poteaux. Hein.
Bon, mais restez en place, ne bougez plus, surtout restez sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va continuer à vous expliquer ce que ces quatre peurs fondamentales entraînent bien souvent en nous, comment elles nous paralysent, nous empêchent de vivre sereinement, parfois même sans le savoir. On va essayer de vous expliquer comment les dépasser, notamment la peur d'agir et de se séparer, qui elles aussi trouvent leurs origines dans l'enfance. Tiens donc, encore une fois, restez sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous de Séméria. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicien, psychothérapeute et vice-président de l'Association française de psychothérapie existentielle. Alors on va passer dans cette partie, Eudes, aux deux dernières peurs dont on n'a pas encore parlé, à commencer par la peur d'agir. Et comme toutes les peurs remontent à l'enfance, hein, ça c'est ce qu'on a compris depuis le début de l'émission, quel est le lien avec notre vie d'enfant? On aime tourner en rond quand on est petit, c'est ça?
Oui, alors ça remonte à l'enfance, ça veut dire qu'en fait, ça découle d'une grande part infantile qui reste en nous. Il n'y a pas un adulte sur cette planète. Hein. Donc la peur d'agir, oui, ça se rapporte à une action un peu vide dans laquelle on se met quand on est petit, qui n'engage à rien en fait. Donc poser les choses, c'est déjà s'engager donc, sur cette ligne droite dont on parlait tout à l'heure et qui mène à la mort, qui est le point final de notre vie. Donc quand on ne veut pas agir, c'est que quand on refuse d'agir, on entraîne nécessairement des réactions comme la procrastination ou la rumination.
Mais du coup, la peur d'agir, on a peur de quoi? De faire le mauvais choix au point de laisser les autres décider à notre place? Est-ce que lorsqu'on est au restaurant, qu'on ne sait pas quel menu choisir et qu'on attend
d'être... Moi, je prends comme mon mari, quand c'est comme ça, je ne sais pas quoi prendre.
Bah ouais, exactement, il y a énormément de gens qui choisissent comme les autres.
Ouais.
Qui délèguent leur
restaurant,
leur
ça va souvent arriver, ça. Ouais. Hein, ouais.
Moi, je sais que les vêtements aussi, je ne sais pas quoi faire. Comment
vous mettez les enfants. Habits de votre femme, du coup?
Non, mais des enfants, je ne sais pas quel vêtement choisir. Du coup, j'appelle la rescousse.
Ah ouais.
Mais quel vêtement il faut utiliser, il faut mettre aux enfants?
Vous prenez les premiers qui arrivent, non?
Je fais toujours les mauvais choix. Donc.
Mais voilà, alors si vous prenez le premier qui arrive, vous n'avez pas nécessairement ce que vous aimez. D'ailleurs, quand vous choisissez la même chose que l'autre.
Lui, apparemment, il a du mal à choisir pour les autres, surtout. Mais pour lui,
apparemment,
il met toujours le même pull.
C'est une métaphore de la vie sans action. Si j'agis pas, je n'aurai pas la vie que je veux. C'est pour ça que c'est très important. Donc,
Mais là, on parle des décisions du quotidien, comme on rigole, les vêtements. Mais est-ce que ça peut toucher des domaines plus intimes ou même personnels? Est-ce qu'on peut demander l'avis sur un petit copain, une petite copine, un proche, en disant est-ce que c'est bien ou pas d'être avec lui ou avec elle?
Oui, non, mais on peut demander des conseils, des avis à ceux qui nous entourent, mais la question, il ne faut pas que ça soit systématique, en fait. Si c'est systématique...
Il y en a comme ça qui demandent toujours l'avis des copines, par exemple, pour choisir l'amoureux. Quoi.
T'en penses quoi?
Moi, ce n'est pas mon cas.
Mais pire que ça, ils demandent l'avis de leurs parents. Donc, ce sont les parents qui... Vous voyez qu'on revient toujours à cette question d'enfance. C'est-à-dire, ils vont vivre, finalement... Il y a des gens qui refusent de sortir avec telle ou telle personne parce qu'il ne plaît pas aux parents. Donc, vous n'aurez pas la vie que vous voulez.
A priori, on ne doit pas demander à ses parents non, pour choisir l'être aimé. Je pense que là, ça veut dire qu'on a très très peur, hein, pour le coup, si on fait ça.
Ouais. Pas systématiquement. Il ne faut pas déléguer. Si vous déléguez sans arrêt, vous ne vivez pas votre vie.
Alors, vous écrivez également dans votre livre que cette peur d'agir, elle frôle parfois avec la procrastination. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est-à-dire la peur des démarches administratives, Jimmy, n'est-ce pas, par exemple? J'en connais
pas
mal.
Je paye mes impôts, hein.
Jimmy, la peur de se lancer dans la déclaration d'impôts, ces choses-là. Ça, il y en a quand même beaucoup des gens qui sont concernés par ça. Il y en a beaucoup qui vont se sentir concernés. D'accord.
Non, 99,9, j'ai même rencontré des gens dont c'était la passion, mais c'est quand même très rare. Oui, ça, c'est l'épreuve ultime. Il faut faire des choses qui sont rébarbatives, il faut être sérieux, il ne faut pas se louper, là, pour le coup.
Mais je crois que Jimmy, par exemple, je le cite, hein, parce que juste, il n'a pas envie de s'y mettre, mais il finit par le faire, mais c'est parce qu'il n'aime pas ça, c'est pas parce qu'il a peur.
Ah non, j'ai peur aussi, non, mais je pense que c'est
une vraie angoisse. Ah,
il y a vraiment une peur.
Je suis pas une bonne psychologue, alors. Ah ouais.
Bah, prenez votre feuille de...
Mais une angoisse de quoi? De toute façon, à la fin, il faut payer, c'est tout, quoi. Enfin, je sais pas. Ah,
vous savez, dans quelle case il faut mettre quel revenu, quel machin. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, j'aime pas parce que je trouve ça chiant, quoi. Mais,
on délègue. Mais du coup, soit on a un comptable, on délègue parfois au conjoint. Est-ce que c'est bien de laisser les autres faire à notre place?
Ah non, non, non. Non, ça, vraiment, je conseille toujours pour le compte, les finances, les impôts. Enfin, il faut déléguer. Il faut absolument pas déléguer au conjoint. Pourquoi? Parce que c'est une demande infantile. C'est demander au conjoint d'être son propre parent. C'est ce qui détruit la plupart des couples, c'est les demandes infantiles de part et d'autre, qui sont pas, qui concernent pas seulement l'administration, mais rassure-moi, valorise-moi, voilà, d'autres domaines.
Cette peur de devenir adulte, elle se retrouve aussi, ça m'intéresse fortement, j'en ai déjà parlé, dans la peur de conduire, de prendre le volant. Moi, je pensais que j'avais une phobie, mais peut-être que c'est autre chose. C'est aussi la peur de se conduire, vous dites, la peur de conduire. Ça veut dire quoi?
Oui, alors,
expliquez-moi de quoi je souffre.
Vous avez raison, ça peut tourner en phobie, parce que je vous disais au début tout à l'heure que ces peurs sont irrationnelles et qu'elles perturbent votre fonctionnement. Si vous ne pouvez pas conduire, vous devez être conduit par quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est se conduire, et d'ailleurs, la plupart du temps, les crises d'angoisse chez l'adolescent, enfin le jeune homme ou la jeune femme, surviennent vraiment sur la première fois qu'ils entrent sur l'autoroute.
Oh, bon, parce que c'est la métaphore. Encore le souvenir. Vous savez quoi, j'ai une image dans ma tête, dans l'espace Renault Espace de mon père, avec une bouffée d'angoisse. Je m'en souviens, mais vraiment.
C'est ça, bah c'est la métaphore parfaite de ce qu'est la vie. C'est-à-dire que vous vous engagez là véritablement, vous êtes responsable de votre voiture, c'est-à-dire vous savez conduire, vous savez où vous allez, vous savez comment y aller, mais là,
on peut avoir un accident, on voit bien que ça arrive. Oui.
Vous ne pouvez plus sortir avant 20 km. Ouais. Alors, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que vous faites? C'est pareil dans la vie. Oui.
J'ai vraiment une bouffée d'angoisse. On continue, allez-y.
Mais ça va aller, on va aller faire un tour de périph' ensemble.
Non, mais j'ai vraiment un problème avec la conduite.
Au bout
de triomphe. Un tour de périph'.
J'ai chaud là, vous voyez. Non, mais c'est vrai.
Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir.
C'est du réel.
Alors, on va terminer avec la peur de se séparer, la peur d'être seul. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à supporter les moments de solitude? Ça remonte là encore une fois à l'enfance?
Oui, c'est-à-dire que bon, il faut expliquer que quand l'enfant vient au monde, il ne peut survivre, mais au sens propre du terme, que s'il s'attache à un adulte. On sait que, par exemple, dans les guerres, les enfants sont mis en batterie dans les églises, comme ça, les orphelins. Bon. Et puis, on les nourrit, on les chauffe, mais personne n'a le temps de passer du temps avec eux et de les rassurer. Et ces enfants font des dépressions très graves, qu'on appelle anaclitiques, et ils meurent en bonne santé. En fait, ils arrêtent de vivre. Donc, on sait que l'enfant, ou alors s'ils survivent, c'est des séquelles très graves. Pour survivre, il faut s'attacher. Mais pour continuer sa vie après, il faut se détacher. Vous voyez, et se détacher, c'est donc prendre conscience du fait qu'on est seul dans sa tête et le supporter, le dépasser.
Chez ces personnes qui ont particulièrement peur d'être quittées, de se retrouver seules, elles sont, vous écrivez dans votre bouquin, dans l'incapacité de dire « je t'aime ». Pourquoi? Expliquez-nous.
Mais là, il y a aussi mille raisons qu'on pourrait...
C'est pas mal de le dire quand on veut garder l'être aimé.
C'est pas mal de le dire, et c'est même pas mal de le dire à ses enfants, parce que vous imaginez pas le nombre de gens que je reçois qui n'ont jamais entendu ça de leurs parents. C'est quand même étrange. Et une des explications, parmi d'autres, un des facteurs, c'est que c'est encore une question de loyauté. Il s'agit de ne pas trahir ses parents, son origine, sa base de sécurité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti, et donc de ne pas trahir cette fameuse loyauté absolue.
Et vous dites que ça va jusqu'à saboter sa vie sentimentale par peur, et vous prenez l'exemple d'Evelyne, 48 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait et pourquoi?
Ah mais Evelyne, elle se vit, comme tous les gens qui ont une grande part d'immaturité, un peu, elle voit le monde d'en bas finalement, vous savez, c'est-à-dire que tout le monde est toujours plus adulte, plus grand, donc dès qu'elle rencontrait un homme avec qui ça pouvait se faire et qu'elle engageait, dès ce moment-là, dès le premier verre, en fait, elle imaginait déjà dans sa tête le scénario de la fin.
Qu'il allait la quitter, ah ouais.
Il fallait que finalement elle se rassure d'une certaine manière en se disant ça va pas durer. Et le travail avec elle, ça a été effectivement de la sortir de, elle a pas loin de 50 ans quand même, de la sortir de cette base de sécurité, de cette loyauté aux parents, elle écoutait encore ses parents.
Justement, pour contrer cette peur de la séparation dans des cas sévères comme celui d'Evelyne que vous venez de décrire, vous proposez quelques règles dans votre livre, pas de plainte, pas de conseil et pas de reproche. Comment est-ce qu'on applique ça?
Oui, alors j'ai appelé ça la règle PCR pour coller avec l'actualité du corona.
PCR, oui, d'accord.
C'est-à-dire pas de plainte, pas de conseil, pas de reproche, dans les deux sens. C'est-à-dire que ces trois choses finalement entretiennent une relation fusionnelle et même presque un harcèlement. Prenons l'exemple, par exemple, d'une jeune femme de 30 ou 40 ans qui appelle tous les jours sa maman. Vous voyez, c'est déjà trop. Donc déjà, il faut... Voilà. Ensuite, si elle enlève les plaintes, ça ne va pas en ce moment. Si elle enlève les conseils, qu'est-ce que je dois faire? Si elle enlève les reproches, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, qu'est-ce qui reste?
L'amour, ben, c'est là peut-être
que... Mais non, il reste quelque chose de beaucoup plus authentique. Vous parlez de vous, vous parlez d'autres choses. Enfin, vous avez un peu d'enthousiasme, mais vous n'êtes pas dans ce ronronnement-là qui vous enferme dans la relation.
Très bien. Merci beaucoup, De Semeria, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc, pour en savoir davantage, pour nous aider encore plus concrètement à les combattre, ces peurs, je rappelle votre livre, Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre, chez Albin Michel. Merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. On va s'intéresser à votre sommeil et plus précisément, non, on va pas parler de sommeil, on va parler de musique.
Qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi. Et de la musique.
Les fiches n'étaient pas bonnes, alors on va parler de musique. Comment aller protéger nos
Exactement.
Oreilles de sa musique trop forte ? Parce qu'elle est bonne pour le cerveau, par contre, la musique. On va y revenir avec le docteur Jimmy Mohamed. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi, bien sûr. Alors à présent, on va passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. On va parler musique, enfin surtout musique trop forte, hein, quand elle peut nous casser les oreilles. Savez-vous quelles sont les limites de volume à ne pas dépasser ? Connaissez-vous les signes, les symptômes qui doivent vous faire débrancher le casque qui dit finalement « Allez, stop, hein, la musique, Jimmy ». Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous interroger sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
J'écoute de la musique avec des écouteurs.
Alors ça, rarement. Je préfère écouter de la musique chez moi, quand c'est bien diffus.
Sinon, avec une enceinte. Enfin, j'écoute de la musique tous les jours, ouais.
Du coup, on est habitué à entendre des choses fortes et on est plus sensible aux sons moins forts, du coup.
C'est pour ça que moi, j'ai recours à un casque à réduction de bruit, avec une bonne qualité audio, sans pousser le volume très fort.
Et maintenant, avec les nouvelles updates sur l'iPhone, ils te disent, en fait, si t'écoutes la musique trop fort, ils baissent le son automatiquement, en fait, pour protéger les oreilles.
Moi, je pense que c'est 20 décibels, le niveau de musique, ouais, c'est correct.
Quand on a la musique qui commence à bourdonner sur les tympans, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. Et quand on voit qu'on a une perte d'audition.
Et encore, si c'est avec parcimonie, ça va encore. Enfin, faut pas que ça soit un quotidien, en fait.
Alors Jimmy, pour commencer, avant de diaboliser la musique, on va d'ailleurs pas le faire parce qu'on adore la musique, mais on va en parler concernant notre audition, on va peut-être rappeler qu'elle a quand même des pouvoirs extraordinaires sur notre cerveau, lesquels, grosso modo, et sur le stress aussi, je crois.
Oui, pas que sur le stress, ça sert à réguler les émotions, ça sert à augmenter votre concentration, ça permet de diminuer la douleur et ça baisse aussi votre niveau de stress. Lorsque vous êtes stressé, vous allez synthétiser de l'adrénaline pour avoir la réponse soit de la bagarre ou de la fuite, et du cortisol. Et bien la musique permet de réguler ces deux systèmes, à la fois l'adrénaline...
En bac, tout ça, ça se régule.
Exactement, on a fait des expériences dans les blocs opératoires, on a fait écouter de la musique à des malades et on s'est rendu compte qu'ils avaient un score de douleur plus faible que les autres et même une fréquence cardiaque qui se ralentit. D'ailleurs, vous remarquerez ou pas, peut-être que les chirurgiens écoutent de la musique au bloc opératoire, c'est parce que c'est des grands mélomanes, c'est que ça les déstresse. Et donc, la musique a un pouvoir extraordinaire, notamment anxiolytique.
Donc c'est très bon, avec alors modération, on va voir, hein, avoir le casque dans les oreilles ou les écouteurs à longueur de temps dans les oreilles, est-ce que ça peut vraiment d'ailleurs abîmer l'audition ? On dit ça aux petits, arrête tout le temps le casque dans les oreilles, ça va t'abîmer, mais c'est vrai ou pas ?
Alors il faut bien comprendre qu'on a des cellules dans les oreilles, qu'on appelle les cellules ciliées, qui sont plus fragiles que les cellules au niveau de vos yeux. Et donc vos oreilles sont plus fragiles que vos yeux. Ouais. Et avec le temps, ces cellules vont peu à peu disparaître, responsables d'une baisse de l'audition à partir de 50 ans. Sauf que, d'ici là, vous pouvez jouer sur cette audition. Et donc, évidemment, si vous êtes en permanence avec un casque ou des écouteurs, avec une écoute prolongée ou trop forte, vous risquez d'altérer cette audition. En revanche, entre un casque ou des écouteurs
classiques... J'allais vous dire, est-ce qu'il y a une différence ?
Est-ce
qu'il y a un truc qui est mieux
que l'autre ? Il n'y a pas de vraie étude qui prouve une différence entre les deux.
Ok. Alors, c'est quoi les signes, les symptômes qui doivent nous faire prendre conscience qu'il est peut-être temps de baisser le volume, de faire une pause ? D'ailleurs, tous les combien, quand on écoute la musique, certains écoutent des heures. Enfin, moi, c'est que 30 minutes dans le métro, par exemple. Ça, c'est beaucoup, c'est pas...
Alors, 30 minutes, c'est pas mal. Il n'y a pas vraiment de signes, puisque finalement, vous allez peu à peu détruire votre oreille à bas bruit sans vous en rendre compte. Et le premier signe d'hypoacousie, c'est-à-dire de baisse de l'audition à partir de 50 ans, ça va être une gêne dans le bruit. Mais quand vous écoutez tous les jours de la musique, vous n'allez strictement rien sentir, même
oui,
si
va
vos
avoir
cellules...
mal aux oreilles quand c'est trop...
Exactement.
Ouais, c'est ça.
En revanche, ce qu'on sait, c'est que si vous écoutez plus d'une heure et quart, une heure et demie à plein volume, et bien à ce moment-là, vos oreilles vont en souffrir. Et donc, ce qu'on peut proposer, c'est des choses simples. C'est un, de régler sur un volume moyen. Et souvent, vous avez des petits régulateurs sur votre téléphone qui vous disent « Attention !»
C'est limité de toute façon, hein, bien sûr. Ouais. Ils sont bridés,
limité,
non,
oui, évidemment, c'est limité. Mais souvent, on va au-delà de la limite qui est acceptable. Et puis, toutes les 1h30 environ, faire une pause de 15 minutes pour laisser nos oreilles en quelque sorte respirer.
Parce qu'on est d'accord, hein, Jimmy, l'audition, c'est pas comme d'autres choses. Hein, ça ne se régénère jamais. Hein. Si c'est perdu, c'est perdu.
Exactement.
Hein.
Une fois que les cellules sont détruites, vous perdez de l'audition. Et puis, il y a un lien désormais bien établi entre des troubles de l'audition chez les personnes âgées et la maladie d'Alzheimer. Donc, ce n'est pas qu'une simple gêne fonctionnelle de moins bien entendre. Car
heureusement,
en plus de
la musique, ça fait du bien. Quand,
oui, et la musique, elle a du
pour la mémoire.
Mœurs.
Donc,
et
très bien.
Exactement, très bien.
On va écouter la musique, mais pas trop fort et faire des pauses.
Aussi,
et
la radio.
Ouais, très bien. Allez, on écoute la radio et la musique, on a compris, mais avec modération. Merci, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve avec Catherine Blanc et sa chronique sexo. A tout de suite sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va prendre la question d'Emma. Je vous la lis, je vous écoute régulièrement. Et à chaque fois, je découvre les soucis de chacun. Et moi, ça m'inquiète, car dans le mien, je n'ai pas de problème. Tout se passe bien. Jamais de dispute avec mon mari. Et au lit, tout se passe bien. Je me demande donc si c'est normal. Alors, Catherine, on répond à tellement de problèmes que finalement, ceux qui n'en ont pas s'inquiètent maintenant. C'est normal d'être trop love tout le temps, quoi, en fait.
Eh bien non, c'est tout à fait anormal.
Non, il faut consulter.
Et c'est, évidemment, ça on rejoint cette fameuse question de la normalité. Si on considère que la normalité, c'est le plus grand nombre, on peut se poser la question de la normalité d'aller bien. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller mal. Ceci étant, ne veut pas dire que le couple ne peut qu'aller mal. Simplement, évidemment, il faudra en savoir un peu plus.
Ne dis pas depuis combien de temps ils sont, parce que s'ils sont ensemble depuis 2 mois, tout va bien, c'est normal, effectivement.
C'est normal. Et puis, même si on est ensemble depuis des années, et qu'on ne se dispute pas et que la sexualité va bien, ça ne veut pas dire effectivement qu'il y a un problème, comme s'il fallait toujours être dans la tension. Certains d'ailleurs ont le sentiment que la relation n'a de sens que si on se contredit, que si on se dispute pour relancer l'élan amoureux, comme s'il n'y avait que du bonheur à l'orée d'une difficulté ou d'un péril.
Mais j'avoue que moi, je trouve ça un peu suspicieux quand même. Un couple où tout va bien, ça me paraît louche, quoi. Je ne sais pas pourquoi.
Alors, peut-être, vous avez en partie raison, parce que vous êtes un peu parano par ailleurs, mais sinon, vous avez en partie raison, c'est que la relation de couple n'est pas une fusion. Et dans la mesure où ça n'est pas une fusion, dans la mesure où on n'est pas avec quelqu'un qui est un double de soi, par définition, il y a de façon évidente de la contradiction. Et s'il n'y a pas de contradiction, c'est un peu comme si on était dans le déni de l'autre en tant qu'autre, et donc on n'entend pas, on ne voit pas ce qui est différent de soi, on ne voit que ce qui est comme soi, et du coup on s'entend merveilleusement avec soi-même, au féminin ou au masculin. Ou alors, c'est justement parce que on a choisi l'autre parce qu'il ne vient pas bousculer notre propre regard sur la vie. Or, la réalité d'un couple, eh bien, c'est évidemment des contradictions parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas le même sexe le cas échéant.
Et on se construit par ces contradictions aussi dans le couple, c'est possible ?
Oui, bien sûr, parce que ça oblige à reconsidérer les choses. C'est-à-dire que c'est comme quand vous apprenez en français à faire une dissertation, vous apprenez un argumentaire et un contre-argumentaire. Ça ne va pas vous détruire que de penser autrement que comme vous. Ça ne va pas vous détruire que d'écouter quelle autre pensée pourrait nourrir le sujet que vous êtes en train de développer. Eh bien, c'est la même chose. Nous grandissons justement dans cette compétence à évoquer, à verbaliser ou à son émotion, son besoin, son désir, ses valeurs. Mais c'est très intéressant et nécessaire absolument d'écouter ce qu'un autre point de vue pourrait évoquer, quitte à ce que ce soit pour nourrir sa propre pensée et parfois pour heurter sa propre pensée.
Alors si on veut aider Emma à grandir, à ne pas rester toute petite dans cette relation, parce que vous dites que c'est quand même une manière de grandir aussi, de se retrouver face aux contradictions de l'autre, est-ce qu'on doit lui conseiller de mettre de l'huile sur le feu pour créer de gentilles disputes ? Je ne sais pas.
Pas nécessairement de mettre de l'huile sur le feu, mais peut-être d'ouvrir un peu plus peut-être ses oreilles et son regard sur l'autre, ne serait-ce que pour voir si c'est toujours en adéquation, mais peut-être que ça l'est tout simplement parce que chacun voit bien qu'il y a des moments où ils ne sont pas d'accord.
Peut-être qu'elle se voile un peu la face, quoi, c'est ça ?
Alors, ou elle se voile la face, ou tout simplement, elle dit que tout va bien, parce que quand ils ne sont pas d'accord, de toute façon, ils sont assez intelligents pour pouvoir échanger ensemble, comprendre le point de vue de chacun, mettre chacun de l'eau dans son vin, savoir tenir ses positions et être respecté par l'autre quand on tient ses positions. Et peut-être qu'à ce titre-là, c'est absolument merveilleux, et je le souhaite pour tout le monde, et ça participe effectivement de la maturité d'un couple. Et je souhaite que ce soit ça qu'elle rencontre, et qui fait qu'elle est tranquille. Maintenant, comme elle s'inquiète de ne pas être comme les autres, c'est que donc, effectivement, il y a peut-être autre chose à voir, qui est justement cette compétence à voir l'autre en tant qu'autre, puisque nous aimons un autre être que soi, et pas nous, au féminin ou au masculin.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est peut-être que... Alors peut-être, hein, encore une fois, on n'a pas tous les détails de cette histoire, mais que Emma, finalement, il y a des tensions dans son couple, mais elle ne les voit pas, c'est ça, parce qu'elle est trop amoureuse aussi. Peut-être que si on posait la question à son conjoint, d'ailleurs, il ne serait pas tout à fait d'accord.
Peut-être qu'il n'aurait pas le même point de vue. Est-ce qu'elle est trop amoureuse? Alors, ça pose la question.
On peut être trop amoureux.
En tout cas, ça pose la question de ce que vous entendez, vous, Mélanie, par trop amoureuse. Est-ce que trop amoureuse, c'est le déni de ma réalité, le déni de mes besoins, et que du coup, c'est une soumission au désir de l'autre ? Être trop amoureuse ne veut pas dire être aveugle à la réalité de l'autre. C'est pouvoir aimer l'autre, même dans ses désordres. Est-ce que quand on aime fortement nos enfants, on ne doit pas voir qu'ils sont dangereux, tyranniques, voleurs, menteurs ? Non, aimer ses enfants, c'est justement être en tout à fait clairvoyance de la réalité de ce qu'ils sont, pour les aider à grandir, pour les aider à reconsidérer leur position, pour autant les baigner d'amour et de sécurité de ce lien.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient bien sûr demain à la même heure sur Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Alors, est-ce qu'il faut allaiter son enfant? Je ne sais pas, c'est une question peut-être qu'on aurait pu traiter dans
votre émission. Est-ce que vous avez une nounou pour vos enfants?
Oui, mais je les ai allaités moi-même quand même.
C'est important de le signaler.
C'est pas ce qu'a fait Louis XV, a tété au sein de Marie-Madeleine Mercier, dont je vais vous raconter l'histoire. Et puis, on va parler d'une autre nounou, Viviane Mayer. Après sa mort, on a découvert qu'elle était sans doute l'une des photographes les plus cotées au monde. Et vous avez trouvé une nounou d'enfer. Mais vrai, le mot enfer est à prendre au premier sens.
Oui. Oui. Vous avez lu Chanson douce de Léla Slimani, ce roman.
C'est horrible, mon Dieu.
D'un fait divers bien affreux. Réel, bien affreux, avec des enfants morts. Effectivement, c'est la nounou qui a tué les enfants à Manhattan. Elle s'appelle Yoselyn Ortega et ça sera un moment très fun de l'émission probablement.
Alors attention, vous n'êtes pas chez Christophe Andelat, vous êtes bien chez Mathieu Noël et Stéphane Bern. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.